France Inter.
Aujourd'hui, cosmologie, une histoire de l'univers, racontée par
Françoise Combes, astrophysicienne, professeure au Collège de France et présidente de l'Académie des sciences.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le 26 avril 1920 eut lieu à Washington un grand débat qui fera date entre deux astrophysiciens américains, Shapley et Curtis, concernant la taille de l'univers. Shapley soutenait que la Voie lactée était immensément grande et que tout l'univers connu s'y trouvait. Curtis, de son côté, pensait que la Voie lactée était plus petite, c'est ce que Shapley affirmait. Voilà ce que ce dernier expliquait à l'époque. L'univers physique était anthropocentrique pour l'homme primitif. Un stade ultérieur du progrès intellectuel, il était centré sur une zone restreinte à la surface de la Terre. Plus tard encore, pour Ptolémée et son école, l'univers était géocentrique. Mais depuis Copernic, le Soleil, corps dominant du système solaire, est considéré comme situé au centre ou près du centre du domaine stellaire. Avec l'apparition de chacune de ces conceptions successives, le système stellaire est apparu plus vaste qu'on ne le pensait auparavant. Ainsi, l'importance de l'homme et de la Terre dans le schéma sidéral a diminué avec les progrès de la connaissance du monde physique. Et notre conception des dimensions de l'univers stellaire discernable a progressivement changé. Face à l'accumulation massive d'informations nouvelles et pertinentes, pouvons-nous maintenir fermement nos anciennes conceptions cosmiques? En raison de la croissance et de l'activité exceptionnelle des grands observatoires, dotés de puissantes méthodes d'analyse des étoiles et de sondage de l'espace, nous sommes arrivés à une époque où, je crois, une nouvelle avancée est nécessaire. Notre conception du système galactique doit être élargie pour maintenir en relation les objets que nos télescopes détectent. Le système solaire ne peut plus conserver une position centrale. Les études récentes sur les amas et les sujets connexes ne me semblent pas laisser d'autre alternative que la croyance selon laquelle le système galactique est au moins 10 fois plus grand en diamètre ou au moins 1000 fois plus grand en volume qu'on le supposait récemment. Mais ce débat entre astrophysiciens se solde par un match nul car personne n'arrive véritablement à imposer son idée. C'est finalement Edwin Hubble qui va clôturer le débat en 1924 en démontrant à l'aide des céphéides, ces étoiles massives variables permettant de mesurer les distances, que l'univers avait une dimension bien plus importante que celle de la Voie lactée. Et c'est cette histoire de la cosmologie que nous allons vous raconter. Bonjour Françoise Combes.
Bonjour.
Vous publiez cette petite histoire de la cosmologie aux éditions du CNRS et vous évoquez justement ce grand débat du 26 avril 1920 entre Curtis et Shapley devant l'Académie des sciences des États-Unis concernant donc entre autres la taille de l'univers. Ce débat resté célèbre n'a donc pourtant pas permis de répondre immédiatement à la question.
Oui, c'est un débat charnière, on peut dire, parce que la taille de notre univers s'est tout d'un coup agrandie après 1924, comme vous le redisiez. Mais il faut quand même souligner l'œuvre importante d'une astronome, Henrietta Leavitt, qui a permis la fin de ce débat, grâce à Hubble aussi, qui observait les galaxies. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle regardait les étoiles. Et son travail était de faire un catalogue d'étoiles, assez fastidieux d'ailleurs, et ce qui était réservé aux femmes à l'époque, parce qu'en fait, les hommes ne voulaient pas le faire.
Ouais.
Et donc, en fait, les femmes n'étaient mal considérées encore hein, au début du XXe siècle. Mais donc, elle a eu quand même la présence d'esprit de regarder un petit peu comment varier les étoiles en fonction du temps. Et elle s'est aperçue qu'il y en avait des variables. Alors, c'était des variables de façon sinusoïdale. Le flux était plus grand, plus petit, etc., de façon régulière, et la période étant de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. Et elle s'est aperçue que pour les plus proches dont elle connaissait la distance, la luminosité intrinsèque était proportionnelle à la période.
Oui.
Donc ça a permis de faire un indicateur de distance. Hein. Dès qu'on a la luminosité apparente d'une étoile et qu'on sait, d'après sa période, la luminosité intrinsèque, on a la distance. Et c'est cette distance que Edwin Hubble a exploitée.
C'est ça.
Pour regarder dans ces fameuses nébuleuses qui étaient soi-disant des nuages qui étaient dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Il a regardé Andromède, la galaxie du Triangle qui était à côté. Et en 1925-26, il a obtenu des céphéides. Il s'est aperçu que la nébuleuse d'Andromède n'était pas un nuage dans notre propre galaxie, mais était à 2 millions d'années-lumière.
C'est ça. Donc l'univers s'agrandit tout d'un coup.
Tout d'un coup, il y a des facteurs 10 de tous les côtés.
La connaissance des distances, hein, c'est vrai que c'est un vrai sujet à cette époque. Henrietta Leavitt, à quel moment d'ailleurs elle a fait ses calculs?
En 1909.
1909, oui, c'est ça. Alors,
personne n'a cru, hein, même Hall Chapley en fait ne le croyait pas. C'est pour ça qu'il pensait que tout l'univers était dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est cette bande blanche que l'on voit dans le ciel.
C'est ça.
Et on ne pensait qu'il n'y avait que ça.
Donc elle a été l'une des premières femmes à obtenir un diplôme scientifique. Elle était calculatrice, hein, c'est le terme exact, parce que vous racontez aussi dans votre livre que les télescopes étaient interdits aux femmes à l'époque.
Oui. Je crois qu'elles étaient même parquées dans un sous-sol en train de faire des catalogues d'étoiles. Et elles avaient un diplôme pour la première fois, parce que jusqu'à l'époque, jusqu'à la fin du 19e, elles étaient interdites d'université. Donc les quelques femmes qui avaient fait une contribution scientifique avant étaient des autodidactes ou bien des femmes qui, dans leur famille, avaient des frères ou des maris scientifiques.
Alors qu'elle aurait pu avoir un prix Nobel pour sa découverte.
Exactement. Hein. Et bon, malheureusement, elle est morte un peu avant, mais certains astronomes avaient proposé qu'elle ait le prix Nobel pour cela.
La cosmologie, Françoise Combes, c'est la science de quoi exactement ?
Mais justement, la science du cosmos, alors le cosmos c'est l'espace, tout l'espace qui nous entoure, l'univers en quelque sorte.
C'est la science de l'immensité.
Voilà, de l'immensité. Et on voit bien que dans les débuts, notre univers c'était juste le système solaire, les planètes et le Soleil. Puis ensuite, un petit peu, on s'est agrandi jusqu'à la Voie lactée. Et puis alors, en 1920, on a agrandi ça avec un grand nombre de galaxies. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 2000 milliards de galaxies observables.
Ouais. Et cette histoire de la cosmologie, on peut la faire remonter à quand exactement? Si vraiment on veut essayer de
ça, c'est très intéressant quand on regarde, depuis longtemps que l'on connaît qu'il y a des homos, des hominides, ils ont regardé le ciel, en fait. On s'aperçoit que, très même dans le paléolithique, hein, lorsque même ils n'étaient pas encore sédentarisés, ils chassaient les animaux sauvages, et on a ce souvenir parce qu'il y a dans les grottes des peintures rupestres.
Mais pas avec des étoiles, hein?
Si.
Ah bon, justement, on voit des étoiles.
En fait, très longtemps, en fait, on a vu des animaux, des bisons, des taureaux, des rhinocéros, etc. Et puis certains ont dit, il y a des points noirs un petit peu avec une bonne distribution. On dirait que c'est des étoiles. Et puis récemment, en 2019, un couple de scientifiques, Sweatman et Combes, en 2019, ils ont publié une étude beaucoup plus détaillée. Ils ont utilisé le stellarium pour avoir la position des étoiles.
C'est quoi le stellarium?
Alors c'est un logiciel, pardon. logiciel en bon français, qui permet d'avoir la position des étoiles dans le ciel à toutes les époques, parce qu'en fait, la Terre a une précession des équinoxes, donc on n'a pas tout à fait la même disposition du zodiaque, etc. Donc ils ont regardé, et puis ils ont vu qu'en effet, il y avait une correspondance, en fait, si c'est 10 000 ans, 20 000 ans, parce qu'en fait, il y a la grotte Chauvet, par exemple, qui fait 36 000 ans, la grotte de Lascaux, peut-être 22 000 ans, et rien que là, on voit qu'il y a les mêmes animaux avec des points noirs qui correspondent aux étoiles. Et assez souvent, il y a aussi 7 étoiles proches qui représentent les Pléiades. On sait qu'il y a 7 étoiles les Pléiades, elles sont toutes proches. On pouvait les voir. Il faut dire aussi que le ciel n'était pas pollué, il n'y avait pas de pollution lumineuse. Et donc, ils voyaient très bien. Et alors, ils ont remarqué qu'en effet, ces animaux, alors c'est pour ça que viennent nos noms de constellations. Il y a le taureau, il y a le capricorne, il y a les poissons, les oiseaux. Tout cela vient peut-être de là. Et donc, c'était un peu comme un planétarium, leur peinture. Ils avaient toute la connaissance. Et on a regardé récemment, on a découvert ce disque de Nebra en Allemagne, qui a été remonté, daté de 1600 avant Jésus-Christ, où on voit
Donc c'est vraiment un disque, on le voit d'ailleurs dans votre livre.
Voilà, un disque fait 32 cm, je crois. Il est assez lourd, il est en bronze, et il est recouvert de gravures en or doré. Et on voit la lune en quartier, on voit la lune peut-être ronde, on pense que c'est la lune pleine, peut-être le soleil, et puis une barque. Et puis surtout, il y a deux traces d'or, en fait, au bord, qui représentent plus ou moins 23 degrés, en fait, lorsque les positions de la lune varient selon les saisons. Et on voit que ça correspond exactement à ce qu'ils voyaient, quoi, dans le ciel.
C'est la plus ancienne représentation céleste, c'est quoi, 1600 avant notre ère, hein, c'est ce que vous dites, cet objet.
Hein. Voilà, et on voit les 7 petits points qui sont les Pléiades aussi. Donc on voit plein d'étoiles, mais ces 7 points sont vraiment remarquables.
Ouais. Et l'astronomie en tant que discipline, elle apparaît quand ?
Alors là, c'est plutôt l'Antiquité grecque. On fait remonter à l'Antiquité grecque, on se rend compte de ce qu'il sait. Par exemple, pour avoir la forme de la Terre, on pensait que c'était sphérique. Il y avait quand même Archimède qui avait fait un petit calcul. Par exemple, avec Alexandrie et sienne, qui était maintenant à Soin, en fait, il s'apercevait que au solstice d'été, le soleil rentrait dans le puits, donc il était vraiment à la verticale. Et puis, sur le même méridien, à la même époque, Alexandrie, il y avait 7 degrés d'écart. Il avait mesuré quelque chose qui est la périmètre de la Terre, enfin, un méridien complet, à peu près 40 000 km. Donc, c'était pas si loin de ce qu'on sait aujourd'hui.
Et, la Terre est comment pour eux ? Elle est ronde, elle est plate, elle est cubique, elle a quelle
forme ? Au départ, il y avait beaucoup de mythologie, elle était plate, elle était plate. On voyait, évidemment, on est perturbé par les apparences. On pensait que le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest tourne autour de la Terre. On pense que la Terre est plate, on a l'impression qu'elle est plate. Et puis peu à peu, donc, à l'Antiquité grecque, il y avait quand même beaucoup de scientifiques, on peut dire, qui réfléchissaient. Et certains avaient, par les éclipses, ils avaient pu avoir une petite taille apparente du soleil, de la Lune. Ils voyaient d'abord que tous les astres étaient sphériques, donc pourquoi pas la Terre aussi.
Ouais.
Et puis, c'est quand même très bizarre que le soleil était énormément plus gros que la Terre. Et donc, on ne voyait pas pourquoi le soleil allait tourner autour de la Terre, et ce n'est pas le contraire.
Oui.
Donc déjà, Aristarque de Samos avait mis cette hypothèse, mais il n'avait pas la preuve. Donc il a fallu attendre des siècles après Copernic.
C'est ça. Justement, la grande révolution, c'est Nicolas Copernic, extrait d'un documentaire d'Arte.
On raconte que Copernic a fait percer un trou dans le toit au-dessus de son cabinet de travail pour pouvoir observer les astres et mesurer avec exactitude leur course et leur vitesse dans le ciel. Peut-être n'est-ce pas la Terre qui est au centre des orbites planétaires, mais le Soleil. Quand nous croyons voir le Soleil se lever, c'est en fait la Terre qui tourne sur elle-même. Mais s'il se risquait à l'affirmer publiquement, on se moquerait de lui en le traitant d'insensé ou d'affabulateur. Car ce serait remettre en question une représentation du monde acceptée depuis 1300 ans.
Eh oui, c'est ça, ça rigole pas quand même. Hein. On est au XVIe siècle, mais là, l'astronomie, c'est quasiment un sujet politique.
Ah oui, même religieux, on peut dire, c'est idéologique en quelque sorte. Et donc, en effet, on a vu que Giordano Bruno, qui avait supposé cette hypothèse...
Il a payé cher.
Il a payé très cher, il s'est fait brûler. Galilée aussi, plus tard, après Copernic, soutenait Copernic, mais il avait un peu renié ses opinions pour ne pas être brûlé aussi, comme Giordano Bruno. Donc, Copernic était très prudent. En fait, il l'a mis dans sa préface en disant que non, c'était certainement pas un modèle qui est valide, mais on le proposait pour simplifier les calculs.
Ouais. C'était donc, quoi Mais son éditeur, je crois, a pris soin de ne pas froisser le pape de l'époque en disant c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse, mais c'est pas du tout le vrai modèle que nous proposons.
Tout est permis.
Après, il faut dire aussi que Copernic avait simplifié tellement qu'il avait pris des orbites circulaires pour les planètes. Et en fait, tout ce qu'on connaissait de Ptolémée et tous les siècles précédents, c'était des épicycles, évidemment, géocentriques. Et c'était très exact, parce qu'ils avaient une grande précision de calcul. On pouvait prédire la position des planètes dans le futur. Ça marchait très bien. Et lorsque Copernic a proposé son modèle, qui était très simple, mais il ne marchait pas bien parce que les orbites ne sont pas circulaires.
Ouais.
On voyait que Kepler, plus tard, a montré qu'il y avait des orbites un peu elliptiques. Et donc, le modèle a eu du mal à accrocher parce qu'on n'arrivait pas à prédire la position des planètes.
Kepler, Galilée, Newton, toutes ces figures, évidemment, vous les évoquez, et puis nous allons aborder ensemble les rives du XXe siècle, les rives cosmologiques, puisque c'est le sujet de ce dossier. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
À quel point sommes-nous petits dans l'univers ? À quel point la Terre est minuscule par rapport à l'immensité du cosmos ? Le fait que l'espace soit grand est connu de tous, mais grand, comment ? Notre planète est démesurément grande, mais plus on s'éloigne d'elle, plus on va dans l'espace lointain, et plus elle apparaît comme petite.
Extrait de la chaîne YouTube du petit astronome Françoise Combe, vous qui êtes astrophysicienne et autrice de cette petite histoire de la cosmologie aux éditions du CNRS. Petite histoire, mais vous êtes modeste, parce qu'effectivement, ce que vous y racontez est gigantesque, comme l'univers lui-même, historiquement et scientifiquement d'ailleurs.
Oui, c'est une épopée fantastique en fait. Tout d'un coup, l'univers s'agrandit de plusieurs ordres de grandeur en un seul clic. D'un coup, on s'aperçoit des distances. En fait, tout semblait être à la même distance sur la sphère céleste. Et en 1920, tout d'un coup, Hubble...
C'est ça, c'est l'homme qui a agrandi notre univers. On peut le dire comme ça. Lui qui avait été engagé à l'observatoire du mont Wilson en Californie après la guerre de 1919, c'est là que se trouve à l'époque le plus gros télescope du monde. monde, le télescope Hooker, 100 pouces, il venait juste d'être installé, et la théorie de la relativité générale d'Einstein révolutionnait l'astronomie au même moment.
Hein. Ah oui, hein, oui, en effet, et ça, il faut aussi placer dans ce contexte Georges Lemaître, l'abbé Georges Lemaître, qui en Belgique faisait ses études, faisait une thèse d'ailleurs, il était abbé, mais il s'intéressait beaucoup à la science, et il avait digéré, en fait, et assimilé un petit peu les équations d'Einstein de 1915, qui propageaient la relativité générale, c'est-à-dire que la gravité n'était pas une force comme les autres, mais une déformation de l'espace. Et Einstein, en 1917, avait voulu dire, bon, je vais résoudre cette équation, qui est complexe quand même, et je vois que finalement, il n'y a que deux solutions possibles, soit l'univers fait une grande expansion, soit une grande contraction, mais il n'y a pas de stable, enfin, il n'y a rien de stable dans l'univers, donc je vais ajouter une constante cosmologique, qu'on appelle lambda, encore aujourd'hui, et cette constante cosmologique, ben, elle n'est pas belle, ma théorie, elle, complètement, c'est très, ça enlaidit ma théorie, mais enfin, on est obligé, parce que je veux un univers statique. Et là, il n'avait pas encore parlé avec Hubble, qui, tout d'un coup, en 1929, a vu que, finalement, les galaxies s'éloignaient d'autant plus qu'elles étaient lointaines, avec des vitesses faramineuses. Hein. Il y avait Vesto Slipher qui avait mesuré ces vitesses par effet Doppler, avec les raies d'hydrogène qui étaient émises par ces galaxies. Et il avait montré que les vitesses étaient 1000, 2000, 3000 km par seconde. Donc c'était gigantesque, on ne comprenait pas pourquoi. Et tout d'un coup, Hubble, qui avait regardé un grand nombre de galaxies avec des céphéides et leur distance, il s'était aperçu que la vitesse était proportionnelle à la distance.
Donc il trouve des choses faramineuses aussi.
Faramineuses, une expansion de l'univers qu'il n'avait pas trouvé Einstein. Einstein, lorsqu'il a réalisé cela en 1920-30, eh bien il s'est dit, bon, ce fameux lambda que j'ai introduit, c'était la plus grande erreur de ma vie.
Mais oui, alors qu'est-ce qu'il va faire Georges Lemaître exactement autour des travaux d'Einstein?
Alors, Georges Lemaître, il a fait sa thèse, donc il a écrit en 1927, avant Hubble, il a écrit un article en français qui disait qu'il avait fait le rapprochement entre la relativité générale, qui prédisait une expansion, une dilatation de l'espace, et puis ce qu'avait trouvé Hubble. Et il avait dit, bon, mais si on regarde dans le passé, évidemment, toutes les galaxies que l'on voit seraient réunies en un point, et ce serait l'atome primitif. Mais tout ça est en français, il n'avait pas eu d'impact. Ensuite, il est allé en Californie, discuter avec Hubble, et il a compris, en fait. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, on appelle cette loi de proportionnalité entre vitesse et distance, là, qui s'est appelée loi de Hubble jusqu'en 2018,
on
s'appelle maintenant loi de Hubble, le maître.
Et c'est récent,
C'est récent, et en fait, il était le premier à se rendre compte que c'était une dilatation de l'espace et non pas un effet Doppler. C'est-à-dire que les galaxies ne bougent pas, en fait. C'est juste l'espace qui se dilate et les galaxies sont immobiles.
On va écouter la voix du Belge Georges Lemaître. Là, c'était en 1964.
Pour ce qui concerne la théorie la plus ancienne que j'ai proposée en 1931 sous le nom d'hypothèse de l'atome primitif, il y a un commencement très différent de l'état actuel du monde, un commencement de multiplicité qui peut être décrit pour autant qu'on peut le faire sous forme de la désintégration d'un atome. Quel va être le premier résultat de cette désintégration pour autant qu'on peut suivre la théorie? Eh bien, c'est d'avoir un univers, un espace en expansion rempli par un plasma, par des rayons très énergiques allant dans tous les sens.
1964 à la télévision publique flamande, la voix de Georges Lemaître. Il a donc été le premier à établir l'expansion de l'univers, on pourrait dire les choses comme ça ?
En quelque sorte, oui, parce qu'il s'est rendu compte de la vraie nature physique de cette expansion. Parce que ce qu'avait dit Hubble, c'est juste que la vitesse est proportionnelle à la distance, mais il pensait qu'il y avait une vraie vitesse de ces galaxies.
Oui. Alors l'origine de l'univers, il lui manquait un petit truc dans cette histoire de la cosmologie, c'était une preuve observationnelle qui va arriver, bah, là aussi, on était en 1964, bah, la même année finalement.
Et oui, en 1965, on a une découverte extraordinaire aussi de Wilson, Penzias et Wilson, qui faisaient une recherche tout à fait appliquée, ils regardaient à Bell Laboratories, ils voulaient faire des télédétections. Donc ils voulaient regarder des ondes millimétriques, les envoyer sur un satellite pour les faire revenir sur Terre, voir si on pouvait communiquer sur Terre avec ces ondes-là. Ils avaient un grand cornet, donc ils détectaient le signal avec ce grand cornet, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils avaient du bruit.
La friture sur la ligne.
Une friture très très grande, et ça vient pas du soleil, puisque la nuit c'est pareil, ça vient pas de la Voie lactée, quand la Voie lactée est couchée, on le voit encore. Partout dans tout l'espace, un bruit. Et on sait qu'aujourd'hui, ce bruit est encore énorme. Il nous vient, c'est le vestige de le fossile, rayonnement fossile du Big Bang, de l'origine de l'univers, et ce fond cosmologique est bien plus grand, avec des ordres de grandeur de plus, que tout le rayonnement des galaxies et des étoiles.
C'est le rayonnement fossile, donc le fond diffus cosmologique, que ces deux hommes donc vont enregistrer, sans trop le savoir d'ailleurs.
Ce
sont des scientifiques ensuite qui ont compris ce qu'ils avaient découvert.
Voilà, ils sont allés à Princeton discuter avec Dicke, avec Peebles. Alors ces théoriciens essayaient de voir quel serait le fossile. On ne savait pas à quelle température on l'observait. Et là, les physiciens Penzias et Wilson ont détecté un fond qui est un fond de rayonnement de corps noir à environ 3 degrés Kelvin. C'est-à-dire moins de 170 degrés Celsius, hein, presque près du froid l'absolu.
Le zéro absolu.
Le zéro absolu. Et donc, on ne savait pas, en fait, à quelle température on allait le trouver.
Et alors, cet écho, on peut encore l'entendre ?
Bien sûr.
On en a toujours des traces.
Là, on a 400 photons par centimètre cube là, qui nous chauffent.
Parce qu'en fait, c'est limite on est traversé par cette histoire de 13,8 milliards d'années.
Exactement, et comme ils vont à la vitesse de la lumière, on peut calculer qu'il y a 10 000 milliards de photons qui nous traversent par centimètre carré et par seconde.
C'est incroyable.
Aujourd'hui.
Donc, on a ce vestige des origines de l'univers partout où nous sommes aujourd'hui.
Partout où nous sommes. Ça, c'est une réalité, un fait.
Ouais. Mais c'est stupéfiant, donc, quand même.
C'est stupéfiant, et je pense que certains disent le Big Bang. Alors, Big Bang, c'était un mot qui a été inventé par... un physicien très célèbre, Fred Hoyle, à la BBC, d'un coup, il voulait se moquer de ce modèle, il ne le croyait pas du tout, il disait c'est une grande explosion, un Big Bang, et finalement c'est resté. Donc ce Big Bang, il y a beaucoup d'astronomes ont eu du mal à l'accepter, mais maintenant on le sait que c'est un fait.
Après cette étape dans la cosmologie, il reste encore quelques mystères à éclaircir, évidemment, concernant le ciment, on pourrait dire, des galaxies. Hein, qu'est-ce qui unit tous ces objets entre eux ?
Alors c'est la gravité. Bien entendu, c'est la gravité. Alors on peut remonter, on sait que c'est Newton qui a eu le premier l'idée, qui a fait un pas de géant en essayant de ramener, disons, la gravité qu'on a sur Terre. La pesanteur, c'est qui fait tomber la pomme. Alors évidemment, la pomme qui tombe de l'arbre, tout le monde connaît la légende. Mais il a fait le rapprochement avec la force qui régit le mouvement des planètes. Donc si la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce qu'elle a une vitesse, que la force centrifuge et compense la force d'attraction. Si on arrête la Lune, qu'il n'y a aucune vitesse, la Lune tombe sur la Terre comme la pomme. Donc ça, il a compris. Et il a trouvé la force de gravité à ce moment-là.
Et puis il y a une matière invisible, évidemment, qui intéresse tout le monde.
Alors là, il y a une matière que l'on ne connaît pas du tout, la matière noire. Et on n'a aucune observation directe de cette matière noire, justement, par définition, parce qu'elle ne rayonne pas, elle n'absorbe pas, elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Par contre, elle interagit avec la gravité. Donc, lorsqu'on a une galaxie qui tourne, avec tous les étoiles, le gaz qui tourne autour du centre, eh bien, la vitesse nous donne la masse qui est à l'intérieur. Et là, il y a beaucoup plus de masse que celle qu'on voit. Donc, c'est vraiment de la masse invisible.
C'est ça.
Et ça, c'est la même chose pour les amas de galaxies, pour tout l'univers.
On va en parler dans un instant. Nous irons sur les chemins de la matière et de l'énergie noire. Et vous répondrez, bien sûr, aux messages qui arrivent pour vous, Françoise Combe, autour de cette petite histoire de la cosmologie.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Nous vivons quelque part ici, dans la périphérie de notre immense Voie lactée. Or, celle-ci n'est elle-même qu'un grain de sable perdu dans un océan d'innombrables galaxies. La cohésion de cette gigantesque structure serait assurée par une mystérieuse substance.
C'est sombre, c'est de la matière, mais on ne peut pas la voir. On n'a pas découvert une seule particule de matière noire de toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai. Son absence dans nos expériences est l'un des plus grands mystères de la science actuelle.
Et ça fait rire les scientifiques dans ce documentaire d'Arte, Mystère de la matière noire en 2024. Françoise Combe, aucune particule de matière noire pour l'instant identifiée.
Aucune.
Et pourtant, on est sûr qu'elle existe.
Alors, on n'est peut-être pas sûr qu'elle existe. On sait qu'il y a un problème de masse manquante. Il manque de la masse.
Combien ?
Alors, il manque moins un facteur 5 de plus. Hein. Si on a le contenu de l'univers, c'est 5% de matière ordinaire et 25% de matière noire.
Quand même.
Donc 5 fois plus, c'est ce qui domine en matière. Mais on n'est pas sûr qu'elle existe parce qu'il y a deux choses, deux possibilités. Déjà, Fritz Zwicky, dans les années 1940, l'avait supposé. C'est-à-dire, soit on prend les lois de Newton et d'Einstein et à ce moment-là, il nous faut beaucoup de matière manquante, il faut rajouter de la matière. Ou alors, simplement, c'est la loi qu'on va changer, la loi de gravité qui n'est peut-être pas la même au bout de la galaxie qu'elle est dans le système solaire. Donc finalement, si on change la loi de la gravité, peut-être on peut se passer de cette matière noire.
Donc il y a 5% de matière ordinaire, donc c'est toute la matière qui nous constitue, hein,
voilà, exactement.
Tous les objets et nous-mêmes. La matière noire, donc cette matière invisible, et puis il reste une grosse partie d'énergie.
Il reste 70%.
Ça, c'est l'énergie sombre.
C'est l'énergie sombre.
L'énergie noire.
Alors c'est quelque chose qu'on a découvert récemment, finalement, enfin relativement récemment, en 1998, où on s'est aperçu tout d'un coup que l'expansion de l'univers, que l'on croyait décélérée, alors décélérée parce qu'elle était un peu ralentie à cause de la gravité de tout ce qu'il y a dans l'univers, la gravité est attractive, donc on devait décélérer cette expansion comme un soufflet qui monte, et puis tout d'un coup ça redescend. Eh bien non, on s'est aperçu tout d'un coup parce qu'on a eu un autre indicateur de distance, c'est un petit peu comme l'histoire de Rien à Lévite, tout d'un coup on a un autre indicateur qui était beaucoup plus loin. On avait un type de supernovae qu'on a découvert à ce moment-là, qui nous permettait d'aller beaucoup plus loin que les céphéides, dans la première partie de l'âge de l'univers.
Qu'est-ce qu'une supernovae ?
Alors, une supernovae, il y en a de deux sortes. Il y en a une qui est la fin de vie d'une étoile massive, ça explose parce qu'il n'y a plus assez de combustible, et puis ça fait une grande explosion qui dure un mois ou deux, et on peut la voir, par exemple, celle des Chinois, le crabe, les Chinois l'ont vu en 1050. Et puis, ça, ce n'est pas les supernovae les plus brillantes.
Ouais.
Les plus brillantes, celles qui nous ont permis d'aller voir dans la deuxième partie de l'âge de l'univers, ce sont les supernovae qui sont une étoile binaire. Il y en a une qui est une naine blanche, comme la fin de vie du Soleil, qui sera une naine blanche, et l'autre, une étoile ordinaire, qui perd de la masse, et lorsque la masse tombe sur la naine blanche, alors là, il y a une explosion.
Elles sont toujours par deux, alors
c'est... Toujours par deux.
Ouais.
Et c'est cette explosion qui se passe lorsque la naine blanche avale toute l'enveloppe de sa compagne. À ce moment-là, c'est bien plus lumineux que les supernovae ordinaires de fin de vie d'étoiles massives. Et là, on s'est aperçu, on les a calibrées, on s'est aperçu que la courbe de lumière était proportionnelle à la luminosité intrinsèque, encore une fois, un indicateur de distance, mais qui permettait d'aller dans les premiers milliards d'années de l'âge de l'univers. Et on s'est aperçu que ce qu'on avait supposé comme distance des galaxies avec la loi de Hubble-Lemaître, était pas du tout bonne. En fait, ces galaxies avaient des supernovae qui étaient bien plus loin. Donc il a fallu accepter le fait que l'expansion de l'univers est accélérée et non pas décélérée.
Par une énergie, donc.
Par une énergie qui est répulsive et non pas attractive.
C'est ça.
Donc c'est ça. En fait, l'énergie noire, c'est un cinquième élément, peut-être, qui est répulsif, qui a une pression qui est négative par rapport à sa densité d'énergie et donc qui est répulsif. Mais on ne sait pas du tout de quoi il est fait.
Et ça, c'est une énergie qui ira toujours dans le sens de la répulsion, justement,
ou pas ? Toujours, toujours. Ouais. Ah oui, toujours.
C'est
toujours.
Pas possible que les choses s'inversent.
Ah bah ça, je n'aurais pas prédit à l'avenir.
Pour le moment,
c'est plus facile le passé que l'avenir.
C'est ça, il y a un mécanisme qui a été observé, c'est voilà. Celui-là.
Pour l'instant, c'est celui-là, et on ne va pas extrapoler trop longtemps.
C'est ça. Bon, il y a aussi des missions qui sont en route, qui fonctionnent en ce moment, des missions scientifiques importantes, pour précisément essayer de caractériser cette matière noire, cette énergie noire. Mm-hmm. Mais ça, c'est des enjeux très importants, parce que ça nous semble assez abstrait, mais c'est fondamental pour comprendre la mécanique du cosmos.
Exactement, et aussi la gravité, la loi de la gravité, celle qui nous tient sur Terre, est-ce qu'on la connaît bien ? Peut-être qu'on ne la connaît pas bien, c'est une des forces fondamentales. Il y a quatre forces là qu'on connaît bien. Est-ce qu'il faudrait une cinquième force ? Parce que si on change un peu la loi de gravité, ça équivaut à faire une cinquième force. Donc cette cinquième force fondamentale, est-ce qu'elle existe ou pas ? C'est quand même de la physique fondamentale qu'on est en train d'essayer de chercher.
Ça. Donc il y a plusieurs missions, il y a un instrument qui s'appelle DESY, c'est ça, qui scrute le cosmos depuis 2021, depuis l'Arizona, donc là il est sur Terre. L'idée c'est quoi ? C'est de faire une cartographie d'une large portion de l'univers ?
Alors DESY en effet, il regarde un grand nombre de galaxies. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un grand nombre de galaxies à plusieurs distances, plusieurs époques, puisque finalement, quand on regarde loin, on remonte le temps, donc c'est plusieurs époques. Et si on a assez de galaxies, alors ils en ont pour l'instant 11 millions de galaxies. Où ils ont regardé pendant 3 ans, c'est au sol, et ils ont 11 millions de galaxies, et ils essaient de voir si on a des... Règle standard. La règle standard, ce sont des oscillations acoustiques qu'il y a au début de l'univers et qui sont gelées, 380 000 ans après le Big Bang, sont gelées. Et donc, les galaxies nous donnent cette règle standard qui va se dilater comme l'univers. Et donc, il suffit de mesurer la distance entre ces galaxies, en quelque sorte, en fonction du temps, pour savoir quelle est la loi d'expansion de l'univers. Et ça, ça va nous donner la nature de cette énergie noire. Parce que si c'est une constante cosmologique, comme jusqu'à présent, on a l'impression que c'est constant.
C'est
comme
ça.
Une énergie constante. À ce moment-là, il n'y aura pas de dynamique, ce sera constant dans le passé.
Oui.
Et là, il commence à trouver, peut-être, c'est un résultat qui est vraiment préliminaire.
Très récent, puis c'est récent.
Et puis c'est ouais. un peu dans le bruit, et à ouais. 3 sigma, si on peut dire. Donc peut-être qu'ils auraient vu quelque chose qui n'est pas constant, mais qui serait dynamique.
Et c'est donc ça qui évoluerait voudrait, dans le temps. Hein, qui évoluerait c'est dans ça, le temps. Sur l'accélération de voilà. cette expansion.
Hein. Donc ça pourrait être un cinquième élément, et non pas une constante
bon, cosmologique. Ça, donc, c'est la mission DESY. Et puis un dernier mot sur la mission Euclide. Le 1er juillet 2023, ce télescope, lui, s'est envolé vers le point de Lagrange L2. Hein. Mm-hmm. C'est très loin de nous, c'est 1,5 million
de kilomètres. Oui.
Donc il est là, il stationne, et il va essayer de définir quoi, lui,
Euclide ? Alors ça, c'est un satellite qui a été envoyé par l'Europe, hein. C'est un télescope spatial, un peu comme Hubble, mais Hubble avait ne regardait que des petits points très précis, il n'a pas fait de carte du ciel, là, Euclide va faire une carte de tout le ciel.
Ouais.
Et donc ce qu'il va avoir, c'est 11 milliards de galaxies, non pas 11 millions comme DESY, 11 milliards. Donc on aura beaucoup plus encore de statistiques, et là on va vraiment défricher le problème pour savoir si vraiment l'énergie noire c'est une constante cosmologique ou bien c'est un cinquième élément, ouais. une dynamique.
Très
et
bien.
Ça on le saura dans 3-4 ans.
Et on maintenant. Aura assez d'astrophysiciens pour travailler sur toutes ces données.
On a l'intelligence artificielle maintenant.
Ah ben voilà, on sera sauvés.
On a des astronomes artificiels.
Ah ben ça vous fait plaisir ?
Bien, c'est absolument nécessaire. Hein. C'est pas que ça me fait plaisir, c'est absolument nécessaire. On va pas regarder les 11 milliards de galaxies une par une.
Mmh. Bon, on s'en est passé jusqu'ici là.
Et parce que Hubble n'avait que 100 galaxies à voir.
C'est ça.
Il pouvait les voir une par une.
C'est pas très écolo, Françoise Combes, l'intelligence artificielle.
Ah, mais je crois qu'on est tous là. Hein.
Bon, c'est un autre débat.
Voilà.
Hein, on ne l'abordera pas ensemble.
Non.
Allez, on passe aux questions. Patrick nous dit, est-il pensable qu'à la préhistoire, les grottes se soient comportées comme la chambre noire d'un appareil photo et que les étoiles se projettent sur les parois sous certaines conditions d'obscurité, d'orientation, d'ouverture de la cavité ?
Ah, ben écoutez, c'est une bonne idée.
Vous n'êtes pas préhistorienne. Hein,
oui, non, je ne sais pas, mais est-ce que nos ancêtres avaient compris qu'on pouvait faire des photos des chambres noires ? Pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression que la théorie actuelle, c'est plutôt qu'ils ont dessiné carrément.
Jean-Charles nous dit ceci, qu'il soit fini ou infini, il est difficile de concevoir l'univers. Comment les scientifiques l'imaginent ?
Ah bien, en fait, il est infini, l'univers, donc on peut s'imaginer quelque chose qui se dilate, un petit peu comme une éponge, si vous voulez, une petite éponge, qui est très concentrée au départ, et puis ensuite l'éponge se dilate, mais elle est infinie, l'éponge.
Ouais. Marie nous dit, vous avez mentionné un petit calcul d'Archimède, il a mesuré, disiez-vous, le diamètre de la Terre, est arrivé à moins de 10% d'écart avec ce que l'on connaît maintenant, pardonnez-moi, mais c'est pas un petit calcul.
Ah, c'est un gros calcul, je suis d'accord avec
vous. C'est une sacrée performance, quand même.
Hein, oui, c'est une sacrée performance.
À l'époque. Jean-François demande d'où vient la force gravitationnelle, quelle est son origine, et bonjour de la Réunion.
Justement, Einstein a répondu à cette question déjà. Il a trouvé que ce n'était pas une force comme les autres, comme la force électromagnétique par exemple, mais une déformation de l'espace. Donc il n'y a pas de force. Il y a juste l'espace qui se déforme. À chaque fois qu'il y a une masse, l'espace se courbe autour de la masse, et donc les billes tombent au centre de la cuvette, si on veut dire. Mais il n'y a pas de force vraiment, il n'y a qu'une dilatation de l'espace.
Alain nous dit, comment se fait-il que l'on ne connaît toujours pas ce qui constitue la matière noire, alors même qu'elle représente une énorme partie de la masse totale de l'univers ? Vous le disiez tout à l'heure, 25%.
Et oui. Et donc on a quand même beaucoup éliminé, on a quand même travaillé depuis 1980 où on cherche ces particules dans les
tunnels. Mais pourquoi ? Pourquoi on n'y arrive pas ?
Peut-être parce qu'elles n'existent pas.
Ah ben alors ça, ce serait le comble. Et si elle existe, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la voir ?
Parce qu'elle est très très très... elle n'interagit avec rien du tout, donc elle est illusoire. En fait, il est illusoire de penser qu'elle va interagir avec quelque chose. Donc, on ne la voit pas. Alors, est-ce qu'on la verra dans le futur ? Je ne sais pas. Mais si, entre-temps, on travaille aussi sur une gravité modifiée, et donc si on arrive à trouver un système qui marche très très bien pour toutes les observations, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais peut-être dans l'avenir, on peut le penser. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de matière noire.
Et puis Alexandre nous dit, que représenterait pour l'histoire le fait de pouvoir savoir ce qu'est cette énergie noire ? Beaucoup parlent de révolution de nos connaissances. Est-ce que c'est de cet ordre-là ? On parle de révolution tout le temps, cela dit, en cosmologie.
C'est vrai,
mais
là, c'est en effet le cas, parce qu'il va falloir révolutionner la théorie d'Einstein et de la relativité générale. Donc là, il faut changer quelque chose de fondamental.
Changement de paradigme.
Voilà.
Merci beaucoup, Françoise Combes, d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Je signale donc votre petite histoire de la cosmologie qui vient de paraître. C'est aux éditions du CNRS chez Biblis. C'est un inédit. Et merci à Jean-Philippe Véret qui a préparé ce dossier. À bientôt. Merci beaucoup.